Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Non in Maracas, non in cave, nonni che vanno a comprare le zucchine sopra uno skate.
Bonjour à tous, on va parler famille aujourd'hui dans Accent d'Europe, sans même évoquer le mariage pour tous ou les familles recomposées. Le modèle traditionnel évolue ou résiste de manière étonnante. C'est le cas en Italie, les grands-parents continuent de jouer un rôle central auprès de leurs petits-enfants. Ce sont bien souvent eux qui gardent les moins de 3 ans à la maison, faute de structure d'accueil, il faut bien le dire. Dans le pays, seuls 20% des petits ont une place en crèche ou en garderie, contre 40% en France. À Milan, Franceline Beretti a rencontré des papis et mamies un peu suractifs, mais heureux.
Elisa a 67 ans et l'énergie d'une jeune femme. Ce matin-là, elle vient de déposer son petit-fils à la crèche. Poussette dans une main, biberon dans l'autre, elle s'apprête à partir travailler. Elle est femme de ménage. Mais Elisa ne fait que des demi-journées. Le reste, c'est pour son petit-fils.
J'ai abandonné un travail qui me plaisait énormément, auprès d'une personne qui me traitait bien. Mais j'ai réfléchi, je me suis demandé, qui doit travailler? Qui doit lâcher? Et je me suis dit, c'est moi qui dois arrêter, car j'ai tellement donné pour que ma fille fasse carrière. C'est le plus important. Au début, j'étais un peu perturbée, mais ensuite j'ai reçu cette chose merveilleuse qui m'a donné une détermination que je n'avais jamais eue dans la vie. Si nous ne répondons pas présent, ces deux jeunes qui ont voulu se marier et fonder une famille, comment auraient-ils fait?
La fille d'Elisa travaille beaucoup comme son mari. C'est donc la grand-mère qui s'occupe de Rosario le matin, de 7h30 à 9h30, avant de les déposer à la crèche et de partir au travail. Le grand-père le récupère à 16h, goûter, jeu, bain, il reste avec lui jusqu'au retour des parents. Ces nonni particulièrement dévoués ne sont pas si rares en Italie. D'après une étude, un grand-parent sur 3 s'occupe tous les jours de ses petits-enfants, 1 sur 3. En Suède, ils sont moins de 5%. Pour Elisa, c'est une bénédiction.
Pour moi, c'est très important. Ça m'a donné une énergie que je commençais à perdre. Parce que tes propres enfants, quand ils commencent leur vie, ils s'éloignent, même s'ils ont reçu une éducation pleine d'affection et que vous êtes proches. Je me suis sentie inutile, alors je me suis consacrée à mon travail. Ça n'allait pas bien du tout. Puis cet enfant m'a changé la vie. J'avais toujours des maux de tête, maintenant je n'en ai plus. Rien d'autre ne m'intéresse, je ne pense pas à moi. Parfois je n'arrive même pas à aller chez le coiffeur. Mais ça, ça n'a aucune importance à côté du fait de le voir, de le laver, de jouer.
Si les nonnes de Rosario s'en occupent énormément, ils ont la crèche privée pour souffler ou pour pouvoir travailler. C'est presque un luxe en Italie. L'ONG Save the Children vient de publier un rapport pour le dénoncer. Seul un enfant de moins de 3 ans sur 10 a une place en crèche publique. Avec un enfant, il vaut mieux avoir de l'argent pour se payer les services d'une crèche privée ou d'une babysitter à plein temps, environ 700 euros par mois, ou il faut compter sur les grands-parents. Matteo est un heureux petit garçon de 4 ans, vissé sur son vélo pyjamasque, des personnages de dessins animés. Il a ses deux parents, mais il passe presque tout son temps avec ses grands-parents. Pour lui, la crèche a commencé tard, à 2 ans. Avant, il était chez Nonno Mario et Nonna Maria de 7h30 à 19h. Pour la grand-mère, c'était une évidence. Elle l'explique tout en surveillant son petit-fils au parc, avec un bébé sur les genoux.
On s'est organisé pour l'avoir avec nous. Ma fille disait, mais ça va pour toi maman? Mais pour nous, ça a été un bonheur d'élever Matteo. Et il y a aussi l'été où on l'emmène à partir de juillet, 3 mois dans notre maison à la mer.
Et oui, au cas où les nonni n'en feraient pas assez pendant l'année, il y a les vacances scolaires. Elles durent 3 mois. Le système italien repose sur une solidarité familiale traditionnelle. Peu d'infrastructures publiques pour accueillir les enfants. Les nonni ont intérêt à rester en forme. Ils sont un pilier indispensable pour que tout fonctionne. Ils semblent même jouer les parents, parfois. Mais pour Maria, la répartition des rôles reste claire pour tout le monde. Elle et sa fille n'ont pas la même fonction.
On dit que les grands-parents gâtent et que les parents éduquent. Eh bien oui, c'est vrai. Mon mari le gâte énormément. Moi, je suis un tout petit peu plus sévère. Si, si, je vous dis la vérité.
Ces grands-parents dévoués cachent un enjeu démographique et social. Le taux de natalité est un des plus bas au monde en Italie, peut-être à cause de ce manque d'infrastructures, et moins d'une femme sur deux travaille. Le Premier ministre Giuseppe Conte a promis d'augmenter les places en crèche et de garantir un accès gratuit pour les ménages aux revenus les plus faibles. La question de l'accueil des tout-petits est aussi un révélateur du fossé entre le Nord et le Sud. Si en moyenne, un quart des moins de 3 ans ont accès à une crèche publique dans les régions du Nord, ils ne sont que 3% en Calabre ou en Campanie.
Et à l'est de l'Europe, en Roumanie, les grands-parents sont aussi mis à contribution, mais pour de tout autre raison. Pas de tradition culturelle ici, mais une réponse urgente au départ des parents qui travaillent à l'étranger. Ils sont plus de 3 millions. Les associations et les ONG tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Les dégâts collatéraux sur les 250 000 enfants qui restent au pays sont considérables. On retrouve pour en parler notre correspondant à Bucarest, Benjamin Ribou. Benjamin, on va tout d'abord parler des parents très absents et pour cause.
En quête de salaire décent, nombreux sont les Roumains à avoir tenté l'aventure du travail à l'étranger. Les statistiques 2018 de l'European Demographic Data Sheet avancent le chiffre de 3,2 millions de Roumains installés à l'étranger en 2017 sur une population totale de 19 millions dans l'ensemble de l'Europe, principalement, surtout en Italie et en Espagne. On estime que depuis 1989, la Roumanie a perdu 20% de sa population. Des départs souvent envisagés comme ponctuels et qui se prolongent toujours par manque d'opportunités en Roumanie. Il y a aussi le cas de ceux qui enchaînent des contrats précaires de quelques mois ou plus. Et là encore, c'est la famille élargie ou les grands-parents qui s'occupent des enfants.
Et quel type de problème cela génère-t-il ?
Les rapports réalisés par les ONG sur le terrain montrent que ces enfants souffrent d'un syndrome d'abandon. Ils sont plus fragiles, moins motivés pour faire leurs devoirs et ont aussi des problèmes de communication. De manière générale, ces enfants pâtissent de l'absence d'un cadre que les grands-parents peinent à établir et à incarner. De fait, l'éducation des parents se résume à des coups de téléphone, parfois irréguliers, et à de l'argent envoyé pour faire vivre le foyer, ainsi qu'à des cadeaux ponctuels, souvent importants d'ailleurs, en guise de compensation.
Et l'État roumain a-t-il pris la mesure de cette situation ?
À l'image des problèmes de main-d'œuvre, l'État est plutôt à court d'idées. D'un point de vue légal, les parents sont censés informer les autorités locales lorsqu'ils quittent le pays afin de clarifier la situation de leur enfant. Il y a même des affiches dans les aéroports et les gares du pays pour le leur rappeler. Une démarche que peu de parents font. Pour ne pas perdre leurs aides sociales, ils préfèrent jouer sur l'ambiguïté de départs fréquents, mais jamais définitifs. Plus largement, l'État a tendance à minimiser les chiffres de la diaspora et à se reposer beaucoup sur les ONG. Celles-ci se substituent alors non seulement aux parents et aux grands-parents, mais aussi à l'école. L'éducation nationale est en effet dépassée et manque de moyens. Le nombre de conseillers d'éducation et de psychologues dans le système public est en chute libre. L'école roumaine fonctionnant par demi-journée, ce sont souvent les ONG qui prennent le relais pour l'aide aux devoirs et la prise en charge psychologique, voire fournir un repas chaud entre midi et deux, dans des conditions matérielles pas toujours idéales, là non plus. Pourtant, la situation a tout de la bombe à retardement. Un rapport Eurostat datant de 2015 rappelait que près d'un enfant roumain sur deux est menacé de pauvreté et d'exclusion sociale, le chiffre le plus élevé en Europe.
Merci Benjamin Ribou à Bucarest. C'est officiel depuis cet été, les pères autrichiens ont droit à un congé parental à la naissance de leur enfant, un mois, payé 700 euros, une avancée de taille dans un pays encore très traditionnel et que l'on doit curieusement aux leaders de l'extrême droite. Les explications viennent de Céline Béal.
Au début de l'année, le vice-chancelier autrichien avait eu un fils. Heinz Christian Strache s'était démonstrativement accordé un mois de congé paternité. Il en était revenu rayonnant, annonçant que tous ses compatriotes devraient eux aussi avoir droit à ce mois du papa, comme on dit ici. Mais le papa monate ne faisait pas l'unanimité au sein du gouvernement, rien n'était d'abord advenu pour les salariés du pays. Depuis, ce gouvernement est tombé et le Parlement a finalement décidé d'octroyer ce droit à tous. Avant septembre, certains employés y avaient certes déjà accès, mais pas dans toutes les entreprises ni toutes les régions. Le parti conservateur du chancelier s'opposait à une généralisation, invoquant en particulier le manque à gagner pour les entreprises, privées pendant 30 jours de certains employés. Ce qui peut étonner, c'est que le grand promoteur de la mesure, l'ex-vice-chancelier Heinz Christian Strache, appartient au parti d'extrême droite FPE, qui ne se distingue habituellement pas par ses positions égalitaristes. En réalité, le papa Strache avait bien précisé qu'il se tenait prêt à aider sa femme et son fils. En filigrane, on comprend que la mère était bien la première responsable du bambin. On restait en réalité dans une conception assez traditionnelle. En Autriche, où l'accès aux crèches est limité, 90% des mères disent avoir interrompu leur carrière pour s'occuper de leurs enfants. Ce n'est le cas que de 3% des pères. Dans beaucoup de familles, les anciens rôles prévalent. La mère, responsable du foyer, le père pourvoit à leurs besoins. Le cliché est renforcé par les conditions de travail, puisque ici comme ailleurs, les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, ce qui incite plus les femmes à rester à la maison. Il n'empêche que plus de 80% de la population était en faveur du papa monade pour tous. Les experts expliquent qu'un papa qui a été impliqué dès les premières semaines de la vie d'un bébé a davantage de chances de rester investi dans l'éducation de sa progéniture par la suite. Mais les 700 euros d'indemnité risquent de freiner plus d'un papa tenté par cette aventure.
Et en Espagne aussi, ce sont les politiques qui donnent l'exemple. Dans la péninsule, c'est le leader du parti d'extrême gauche Podemos, Pablo Iglesias, qui a pris un congé remarqué lorsqu'il est devenu papa à Madrid, François Musso.
Fin 2018, un événement a marqué la politique espagnole, un événement familial qui annonçait un changement de mentalité. L'an dernier, en effet, Pablo Iglesias, le leader du parti de gauche radical Podemos et sa femme Irene Montero, annoncent avoir eu deux jumeaux, Manuel et Léo. Mais la surprise est ailleurs. Ils affirment haut et fort qu'au nom de la co-responsabilité entre le père et la mère pour, je cite, « le soin des enfants », leurs congés seront strictement répartis à part égale. Concrètement, les deux parents consacreront le même temps à s'occuper des jumeaux. Pendant son absence, Pablo Iglesias passe le relais du pouvoir à la tête de Podemos à sa compagne sentimentale, Irene Montero. En mars dernier, le secrétaire général revient et la presse titre « Pablo Iglesias est de retour après un long congé paternité ». Cela fait les gros titres, car cela n'est jamais arrivé dans la sphère publique. Le parti Podemos est d'ailleurs celui qui pousse la formation alors au pouvoir, les socialistes, à légiférer dans le sens de l'égalité homme-femme. Ce que le chef du gouvernement Pedro Sanchez a fait. Désormais, depuis avril, les nouveaux pères bénéficient de 8 semaines pour s'occuper de leur progéniture. Ce seront 12 semaines en 2020 et 16 semaines en 2021. Cela demeure facultatif, mais les 6 premières semaines, elles, seront obligatoires. Ce qui fait rugir certains médias et partis conservateurs. Autre polémique, le coût de cette mesure, estimé au total à 1,2 milliard d'euros, qui seront pris sur les caisses de la sécurité sociale. Quant à Pablo Iglesias et Irene Montero, ils ont eu récemment une petite fille, Aitana. Il est prévu que le père Pablo Iglesias s'en occupe les mois d'octobre et de novembre. Mais il est confronté à un dilemme, il est fort possible que cela coïncide avec les prochaines élections anticipées.
You're a mean one, Mr. Trump.
Faut-il se lamenter de la fin de la relation privilégiée entre l'Europe et les États-Unis de Donald Trump? C'est tout l'objet du livre de Benjamin Haddad intitulé « Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes » qui est paru aux éditions Grasset. Face aux défis que représente le désengagement américain en Europe et l'agressivité de la Russie et de la Chine, l'Europe doit trouver là l'occasion de réaffirmer sa puissance économique et politique. C'est ce qu'a expliqué le directeur du think tank Atlantic Council au micro de Sylvie Noël.
C'est une opportunité parce que ça nous force à nous regarder et à voir aujourd'hui les failles de notre modèle. L'Europe, pendant longtemps, s'est bâtie sur l'illusion qu'on pouvait dépasser les rapports de puissance, ce qui était une bonne chose. Ça a été un grand succès, la réconciliation des pays européens après les désastres de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, l'idée qu'on allait pouvoir faire passer les coopérations techniques au lieu de conflits. Mais aujourd'hui, on voit la Chine, la Russie qui agresse l'Ukraine et qui essaie de remettre en cause l'ordre européen avec des ingérences, avec du soutien au mouvement populiste. On voit les États-Unis qui utilisent le dollar comme une arme de puissance contre nous avec l'accord nucléaire iranien, qui ne veulent plus assurer notre sécurité avec les conséquences que l'on voit en Syrie par exemple. La crise syrienne a eu un impact considérable sur les institutions de l'Union européenne, la montée des populismes avec la crise migratoire, la montée de Daesh et les attentats terroristes dans les villes européennes. Notre réponse, c'est de se tourner vers les États-Unis. Et que ce soit Barack Obama ou Donald Trump, ils ont traité cette crise syrienne comme une crise humanitaire lointaine, certes tragique, mais finalement qui n'avait pas vraiment d'impact sur la sécurité des États-Unis. Aujourd'hui, ce détournement américain, il nous force à passer à un projet de puissance, à investir dans notre sécurité et notre défense, à faire de l'euro une vraie monnaie internationale qui est capable d'être aussi un outil de puissance, à défendre nos propres frontières, à investir dans notre périphérie, que ce soit de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient, à s'unir face à la Russie, à s'unir face aux investissements chinois. Il ne faut pas le faire parce que le président américain nous le demande. Il faut le faire pour être capable de défendre nos intérêts et nos valeurs.
C'est ça, s'affirmer, oser s'affirmer comme une puissance politique.
Oser s'affirmer comme une puissance politique. Je suis conscient que c'est difficile, qu'aujourd'hui les Européens sont malheureusement désunis, mais nous n'avons plus le choix.
Alors parmi les Européens, l'Allemagne et notamment Angela Merkel semblent être des cibles privilégiées pour Donald Trump. Pourquoi ?
Il y a peut-être une dimension personnelle, les deux ne s'apprécient pas. C'est vrai qu'il est obsédé par l'Allemagne depuis un moment. Il y a évidemment le comportement allemand pendant la crise migratoire qui va totalement à l'encontre de la vision nationaliste et raciste de Donald Trump et du discours très dur qu'il a tenu sur l'immigration. Mais je pense plus profondément que l'Allemagne, c'est finalement le symbole pour Donald Trump de cet ordre libéral international. C'est la puissance qui a pu se reconstruire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en étant réintégrée dans le jeu grâce au plan Marshall, grâce à la construction européenne et à l'OTAN. C'est un pays exportateur et on sait que Donald Trump considère que les exportations des autres sont des défaites pour les États-Unis. C'est le symbole de la politique étrangère américaine avec laquelle Donald Trump a envie de rompre. Il voit l'Allemagne comme un concurrent économique, il voit l'Allemagne comme un pays qui ne prend pas ses responsabilités sur les questions de défense et de sécurité, qui ne tient pas ses engagements des 2% de dépenses du PIB sur les questions de défense dans le cadre de l'OTAN. Donc il y a vraiment, je crois, une dimension symbolique très forte au-delà de la personnalité d'Angela Merkel. Mais je rajouterais tout de même un point, que sur la question du partage de fardeau et des dépenses de défense, là aussi il y a une forme de continuité malgré la brutalité, la vulgarité avec laquelle s'est exprimé Donald Trump. Il y a une continuité entre Barack Obama et Donald Trump. Barack Obama termine sa présidence en attaquant directement les alliés européens, en parlant de passagers clandestins. Son secrétaire à la défense, Bob Gates, l'avait fait avant lui. Donc c'est un sujet sur lequel il y a un certain consensus dans les élites politiques américaines.
Mais alors quand Emmanuel Macron écrit que l'Europe doit avoir sa propre armée, pourquoi est-ce que ça provoque la fureur du président Trump qui débarque à ce moment-là à Paris et qui tweete ?
Alors il y a peut-être quelque chose qui était lié à l'événement. Rappelez-vous, c'était au moment des cérémonies du 11 novembre. Emmanuel Macron avait fait un discours assez dur contre le nationalisme en faveur de la coopération internationale et de la paix. Ce qui avait été vu à l'époque, probablement à raison, comme une attaque contre la vision America First nationaliste de Donald Trump. Ce voyage était mal placé pour Donald Trump, ça avait causé une polémique aux États-Unis parce qu'il ne s'était pas rendu au cimetière des vétérans à cause de la pluie, donc il essayait peut-être de détourner l'attention. Mais je pense que il doit y avoir déjà une dimension industrielle. C'est vrai que le développement d'une industrie de défense européenne autonome des États-Unis, évidemment, est vu d'un mauvais œil par certains intérêts aux États-Unis qui sont proches de Donald Trump. Et je crois qu'il y a eu peut-être un malentendu lié à une vieille position française qui n'est plus tout celle qu'on entend aujourd'hui, selon laquelle cette défense européenne ou cette autonomie européenne, elle se ferait contre les États-Unis. Or, bien sûr, c'est pas du tout de ça dont on parle. Il s'agit pas de s'opposer aux États-Unis, sauf sur éventuellement des points comme l'accord nucléaire iranien sur lequel on peut avoir des accords. Il s'agit d'exister en tant que puissance, de défendre nos propres intérêts et nos propres valeurs, et bien sûr, aux côtés des États-Unis quand c'est nécessaire.
Le paradis perdu, l'Amérique de Trump, la fin des illusions européennes aux éditions Grasset et signé Benjamin Haddad. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.